It was destroyed and then rebuilt by the Greeks, Romans, Byzantines, Arabs, Crusaders, and Mamelukes.
И что сидим с камерой? Вы что улыбаетесь-то? Здесь не до смеха.
It was destroyed again by Napoleon's army and again rebuilt by the Turks. Then came the British conquest and finally the Israelis.
И как мы этот вопрос будем сейчас решать?
What a history.
Radio Grenouille avec toute son équipe s'est installée dans un petit coin du Palais du Pharaon pour vous faire vivre cet événement. Bienvenue donc dans ce magazine pour cette première journée du festival. Il y a des chroniqueurs, des chroniqueuses. Non, il n'y a que des chroniqueurs.
Il n'y a pas de queuses.
Donc, ils vont nous faire part de quelques réflexions sur les films qui les ont inspirés aujourd'hui, qu'ils ont vus. Nous sommes en direct. Sébastien est à la technique et il est temps de présenter maintenant notre invité ce soir. C'est Gilles Grand. Bonsoir Gilles.
Bonsoir.
Vous êtes auteur-compositeur de musique électroacoustique, des expériences évidemment qui ne se contentent pas au seul champ de la musique. Vous explorez un peu le multimédia, plusieurs courants artistiques. Et si vous êtes ici aussi, je pense que vous êtes venu aussi en qualité de... Vous êtes rédacteur au Cahier du cinéma, vous êtes dans la recherche à l'IRCAM, et vous allez peut-être nous faire part de certaines réflexions sur les musiques de films. Alors bonjour Gilles Grand, bonjour à tous, chroniqueur, Xavier, Olivier et Marc, bonsoir.
Salut Pascal.
Salut.
Alors Gilles Grand, ce n'est pas la première fois que vous venez au FID, puisqu'en 2004, vous faisiez partie du jury son.
Oui,
alors j'aimerais bien que vous me racontiez un peu ce souvenir. Quel souvenir en avez-vous de ce jury?
C'est une activité intense, c'est sur plusieurs jours, le fait de voir un programme de film qui a été préparé. Et la plus grosse difficulté, c'est de se faire un planning correct pour voir tous les films au bon moment, même s'il y a plusieurs diffusions. Et... de ne pas fonctionner uniquement avec les oreilles, il ne s'agit pas de fermer les yeux et de se dire je me concentre sur le son, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc c'est une chose qui se partage avec un jury, donc c'est plusieurs individus, plusieurs avis, et le visionnage et l'audition des films, c'est la partie la plus simple et la plus facile. La partie la plus compliquée, c'est la discussion qu'il va y avoir au sein du jury, parce qu'à ce moment-là, tous les avis s'expriment et il s'agit d'entendre en fait l'avis de chacun et non pas de trouver un consensus ou une position un peu... mais d'avoir une réelle discussion sur les enjeux, sur les choses qui sont faites dans des films qui sont très différenciés. Parce que la grande qualité du FID, c'est de présenter des objets dits documentaires, mais qui brassent assez largement, en fait, ou étirent assez largement la définition du documentaire.
Vous vous souvenez de discussions particulièrement intéressantes, justement, de ce point de vue?
Dans
les débats, des points sur lesquels...
Oui, parce que en plus le prix son est assez intéressant pour ça, parce que sous prétexte de se focaliser sur un aspect, qui serait une sorte de réduction de ce qu'est le documentaire dans son ensemble, en même temps c'est très large. Le son, ça commence où, à quoi on s'intéresse, le travail de quel individu dans le générique du film, Est-ce qu'il s'agit de privilégier la musique, le traitement des voix, le traitement des bruits, l'ensemble, le côté un peu inventif, ou au contraire l'efficacité, le côté très direct en fait de la production. Donc il y a plein d'aspects, alors même que nous, on se contente de regarder qu'un petit aspect en fait du documentaire. Donc je suppose que les jurys français ou internationaux doivent avoir des discussions assez passionnantes par rapport à ça.
Vous vous confrontez au théâtre, à la danse. D'ailleurs, je sais que vous avez composé pour Michel Kaeminis, qui était ici ce matin encore, qu'on connaît bien à Radio Grenouille et à Marseille. La composition du documentaire, vous y avez pensé? Vous en avez fait? Composition sonore, musicale?
Précisément pour un documentaire, non. J'ai eu souvent l'occasion de travailler sur des captations de spectacles ou des adaptations en fait, vidéo de spectacles de danse, une sorte de réduction ou de transformation en fait, pour des objets vidéo. Mais j'ai travaillé à proximité d'individus qui étaient sur des documentaires ou des choses comme ça, mais moi-même, je n'ai jamais proposé en fait, de choses. Ça me démange énormément parce que ça... Comme j'ai déjà essayé plein de choses, je suis impatient d'un jour de signer le son d'un documentaire.
J'aimerais que vous me parliez de l'amiral. Quand on va sur votre site, il y a ce personnage.
L'amiral cherche une maison à louer.
Voilà.
Bah, ça, c'est mon documentaire à moi, mais c'est dans un cadre assez précis, en fait. C'est une pièce qui coïncide avec un film que j'ai vu, là, que je crois, qui est daté de 1906. L'amiral cherche une maison à louer, c'est une pièce mythique de 1916. Dont la seule trace est une double page imprimée qui prend l'allure d'une partition musicale. Les mots sont organisés comme si c'était des notes, en fait, à trois voix françaises, anglaises et allemandes. Et il y a énormément de textes sur le moment où ce petit spectacle a été fait en 1916 dans le cabaret Voltaire. Donc c'est une pièce emblématique du mouvement Dada. Et il en existe une version faite par des Italiens, un ensemble qui s'appelle Ex Voco. C'est la version qu'on peut entendre un petit peu sur différents disques qui font des regroupements comme ça de pièces. Et moi, j'ai tenté, on m'a proposé de le faire pour la grande exposition Dada qu'il y a eu au Centre Pompidou. Et avec l'aide de l'IRCAM, j'ai pu me livrer à une sorte de documentaire sonore, c'est-à-dire me débarrasser de tout le folklore Dada et de ce qu'on peut imaginer, des costumes, l'ambiance... Et me concentrer en fait sur cette double page de mots organisés et de voir ce qu'on pouvait faire en fait pour les faire entendre. L'idée était dans l'expo où il y avait énormément de choses à voir, il y avait plus de 2000 pièces, enfin je ne connais pas le nombre exact, mais il y avait énormément de pièces Dada à voir. L'idée c'était de faire une proposition sonore, c'est regarder cette double page, comment elle s'écoute. Et donc ça a été juste après le feed de l'année dernière, je suis parti et je me suis enfermé dans l'IRCAM à peu près de 2 mois et demi pour réaliser la pièce
pour
et
réaliser.
La finaliser. À l'ouverture de l'Expo Dada.
On va passer à la première chronique. Merci Gilles Grand. On se retrouve tout à l'heure avec Olivier, parce que Olivier, donc, tu as été voir le Brahman du Comintern. C'était le premier film ce matin à 10h dans la grande salle. Un film de Vladimir Léon, qu'on retrouvera d'ailleurs dans un plateau sur la thématique de filmer l'engagement bientôt, ici même au FID sur Radio Grenouille. C'est en première mondiale. Ici, c'est une histoire d'un aventurier révolutionnaire indien du début du siècle.
Voilà.
Tu peux nous en parler un peu.
C'est un peu les yeux en bleu de fatigue que je suis allé voir ce premier film ce matin. Et c'est un film qui m'a laissé un goût dans la bouche. Alors c'est un peu, ça m'a fait penser au toffee. C'est à la fois sucré, c'est salé. Mais c'est un peu plus sucré que salé quand même. Ben là, c'est pareil, c'est un mélange entre l'historique, le politique et même le philosophique, mais le tout traité avec un manque de légèreté assez patent, j'ai trouvé. Alors Vladimir Léon, il signe là son 5e film. Il est parti du Mexique à la Russie, en passant par l'Allemagne et même l'Inde, sur les traces de Manembendra Nath Roy, j'étais sûr de me tromper. C'est un activiste indien du début du siècle, du 20e siècle plutôt. Donc, le réalisateur part d'une photographie représentant tous les cadres du Parti communiste pendant la Seconde Internationale, le Comintern. Et Vladimir Léon, il va tenter de nous expliquer le parcours de ce nationaliste qui milite pour l'indépendance de l'Inde, puis se soumet complètement aux thèses bolcheviques lors de son passage à Moscou, où il a des entretiens avec Lénine. Et dans ce film, alors, il y a une volonté, un réel intérêt historique sur les mouvements politiques du début du 20e, le fourmillement du tiers-mondisme, les révolutions bolcheviques, le zapatisme. Alors on est une sorte de James Bond, alors on passe de Mexico à Moscou, à New Delhi, au Berlin avant Nazi. C'est très intéressant. Mais Vladimir Léon fait une exhumation, c'est de lui une exhumation obstinée des histoires oubliées. Et il paie, je pense, cette obstination en ajoutant des scènes, des entraves qui alourdissent un peu son propos, pour finalement une conclusion assez évidente et bâclée à mon sens. On y apprend ce qu'on sait déjà, c'est un inconnu qui n'est pas resté dans l'histoire parce que politiquement il a toujours été mis en minorité, cet activiste indien, et il a toujours été en posture de contre-pouvoir, d'anti-mouvement général. Par exemple, à l'époque de Gandhi, Roy était contre Gandhi et proposer une constitution de transition. Alors peut-être, et ce sera le mot de la fin, que Vladimir Léon a, comme le sujet de son documentaire, voulu prendre à brousse-poil ou peut-être à contre-courant le jury, pas sûr que ça plaise au monde du jury.
On lui demandera quand il viendra ici sur ce plateau. Gilles Grand, vous avez été voir des films aujourd'hui ? Vous avez eu le temps ?
Oui, je me suis appliqué, malgré la nuit un peu courte, mais oui, j'ai vu des films. Ouais.
Vous avez vu quoi ?
J'ai vu La Nuit, Avant la Nuit. Mm-hmm. C'est avec l'écran parallèle organisé par Sirinéa. C'est pour ça que je parlais d'un film de 1906. C'était très drôle parce qu'il y avait trois films qui s'enchaînaient, qui étaient sur un siècle en fait, le dernier étant assez récent, 2005 ou 2006. Et il y a une qualité d'image qui était presque identique. C'est des très bonnes copies. Mais comme c'est tourné en
pellicule.
C'est tourné en 16. Mmh. C'est, en plus, il y a la question de la nuit qui pose des problèmes de captation et il y a un piqué de l'image. Alors, c'était pas exactement les mêmes qualités d'image, mais en même temps, il y avait une sorte d'homogénéité à voir des choses qui s'étalaient sur un siècle et qui étaient à la fois proches et très différentes.
Vous avez renouvelé cette expérience jurisson sur un festival d'images comme ça, enfin en rapport avec. Cinéma ou documentaire ?
Non, je me réserve uniquement pour le feed. Hein. Je fais que ça qu'à Marseille.
Vous attendez.
Non, mais j'ai des propositions, mais ce n'était pas possible pour les dates. Et la seule fois où je l'ai fait, c'était à Marseille. Mm-hmm. Et j'attends avec impatience l'occasion de le refaire à Marseille.
Vous pouvez nous parler un peu de votre statut de chercheur à l'IRCAM. Racontez-nous un peu ce monde.
C'est une chose assez simple parce que ce n'est pas un statut. Enfin, c'est pas un titre non plus. C'est simplement le fait de faire coïncider un programme de recherche qui peut être le mien en tant que compositeur. Je cherche des choses et j'expérimente des choses et par rapport à des recherches effectives au sein de l'IRCAM. Et à ce moment-là, c'est une sorte de lien entre la production et les chercheurs de l'IRCAM qui sont des gens qui sont plutôt liés au CNRS et qui font des... Et il se trouve que le travail que j'ai fait sur la voix, en utilisant à peu près aucun outil informatique moderne, mais des outils très simples comme on en voit autour de la table de mixage, là pas loin. Des espèces de boîtiers comme ça. J'ai travaillé au théâtre pour modifier en direct la voix d'un comédien, Laurent Poitrenaud en l'occurrence. Et cette recherche en fait d'une transformation directe qui a des effets sur le théâtre, sur comment la voix va se placer via l'amplification, intéressait beaucoup l'IRCAM. Et à ce moment-là, je me suis mis en contact avec les gens qui font souvent ça, et qui font des recherches, et on a pu monter une production du spectacle suivant sur un texte de Lévi Cadiot, qui s'appelle « Retour définitif et durable de l'être aimé », en collaboration avec l'IRCAM, et c'est ça qui m'a donné le bandeau compositeur en recherche à l'IRCAM. Et c'est une relation que je poursuis. C'est-à-dire que
des recherches qui sont encore en cours, là.
Là, en ce moment, on travaille en fait sur le fait de remonter Roméo et Juliette, le premier opéra de Pascal Dussapin et Olivier Cadiot, dont j'avais assuré le son à la création en 88. Et on va le faire en 2008 à l'Opéra Comique avec l'IRCAM. Et là encore, ça va être l'occasion de travailler sur les voix, soit parler, soit chanter, et une transformation en direct, en fait, dans le cadre d'un opéra.
Vous nous avez envoyé un petit document sonore, enfin emmené,
je ne sais pas emporté, si...
Emporté, voilà, sur un DVD.
Mais ça, c'est lié avec...
Vous pouvez nous le présenter ?
Des séances que je vais présenter, toujours dans le cadre de l'écran parallèle de Cyril Nera, La Nuit. Et en fait, c'est mieux qu'on écoute et après...
On va écouter.
Attends, vas-y, va. Oh, t'appuies. Fais un clap quand même. Ah, il est pas bien celui-là. Comment tu fais un café? On fait voir le club.
Tiens.
Non, non, comme ça.
Ah, bah alors. Je suis tordu, Michel.
Alors, on prend le premier clap. Hein.
Premier contre.
Le clap pour quoi faire? Alors là, bah, c'est la merde. Hein. C'est la merde parce que c'est toujours pareil. On se force à parler alors qu'on n'a rien à dire. Alors c'est pour ça que je vais faire parler un peu au monde. Il passe, il est là aussi?
Ah, il marche tous les deux, Michel.
Dis-moi, Antoine, pourquoi c'est si cher le laboratoire?
Parce que le cinéma est un instrument de classe, Michel.
Voilà. Alors ça, il faut bien que Seb l'entende. Le cinéma est un instrument de classe.
Donc, le cinéma, en fait, quoi, c'est une arme terrible. Donc il ne faut pas que tout le monde puisse s'en servir.
Ah, nous, on s'en sert.
Nous, on s'en sert.
On fait de la répétition.
On fait de la guérilla.
Ouais. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on ne fait pas tellement de la guérilla, c'est plutôt de l'underground, quoi. L'underground. Tiens, donne-moi un peu la caméra. C'est toujours les opérateurs qui ont, qui ont les caméras. Tu vois? Ah. Ah, digling. Petit coup de temps qui tourne, c'est beau. Oh, la gueule de l'opérateur qui met. Souris, nom de Dieu. Voilà. Tiens. Et putain, ton casque, Antoine.
J'ai mon casque, Michel.
T'as pas mis ton casque?
Mais je le mets, Michel.
Voilà. Tiens.
Et tu veux que je filme aussi? Il y a une chaise de Bordeaux.
Tu vois?
Ah bah tu sais, je...
Qu'est-ce que tu vois?
Je préfère regarder dans mon truc directement, moi. Hein.
Qu'est-ce que t'as vu? Tu vois?
Je vois la route, mais un peu de biais, là.
Ah, c'est... On voit... Ah, putain. Oh putain, que lui au cul.
Donc ça, c'est un extrait de, du son seulement, de, d'un magnifique road movie qui s'appelle « Lettre à mon ami Paul Seb ». Ces trois dix techniciens du cinéma, en fait, dans une voiture. Donc on entend, ils dialoguent tous les deux, Antoine, Michel. Donc c'est Michel Desrois, qui est en fait un ingénieur du son. Et Antoine, c'est Antoine Bonfanti, qui est un ingénieur du son. On est dans la déesse d'Antoine Bonfanti, qui s'est payé avec les films qu'il a fait probablement avec Gérard Roury ou des choses comme ça. Et cette déesse est à la base de ce qu'on a appelé les groupes Mevetkin. L'intention par Chris Marker, Bonfanti et tout ça, de pousser les ouvriers de la Rodia Seta à Besançon et de Peugeot à Sochaux, de se filmer eux-mêmes et d'inventer un documentaire où ce ne seraient pas les Parisiens qui viendraient filmer des mouvements liés à juste avant 68, ça a commencé en 67, mais leur refiler la caméra en fait pour qu'ils se filment eux-mêmes. Et la scène qu'on a entendue, venez au feed pour voir le film en entier, c'est un magnifique film avec une sorte de... le paysage défile dans le pare-brise de la déesse. Et en fait, c'est ces trois techniciens qui emmènent la pellicule faite par les ouvriers de Besançon à Lille pour une projection. Et pour, lors de cette opération, en fait, ils décident pendant le trajet de faire un film. Et la petite musique qu'on a entendue, c'est une musique qu'ils ont fait eux-mêmes en studio. Mmh. On pourrait la faire, là on peut la reprendre, c'est un ta-da-ta-ta-ta-ta, c'est pas très difficile à faire. Il faut plusieurs voix, mais personne prend le micro, c'est dommage. Non, mais le...
Un peu timide, le chroniqueur.
Et en plus, là c'est un effet de censure, parce que je pense que Michel Desrois dit des trucs assez ignobles par rapport à un mec qui vient de leur faire une queue de poisson. Donc quand il dit colle-lui au cul, c'est le début, à mon avis, d'une diarrhée verbale, comme ça. Enfin, je veux dire, donc on fait une coupure. Il y a d'autres passages très intéressants, comme ça, où il met la radio. Et ils disent putain de droit d'auteur, parce qu'ils savent qu'ils ont une limite, ils peuvent pas. S'ils faisaient écouter de la musique, il faudrait qu'ils payent les droits d'auteur, etc. Donc c'est un jeu, en fait, de trois techniciens qui vont de Paris à Lille pour faire entendre des films documentaires.
Xavier ?
J'ai beaucoup l'idée que coller au cul soit le début d'une longue tirade, ça, effectivement, ça, c'est évident. Non, moi j'avais une question à propos de l'IRCAM dont vous parliez à l'instant, qui vient récemment, je crois, de changer de direction. L'IRCAM qui est au confluent entre la recherche et puis la création artistique, est-ce que justement cette nouvelle direction va accentuer dans un sens ou dans l'autre, c'est-à-dire d'aller plus vers une recherche plus fondamentale ou bien au contraire de laisser encore plus de place à des créations peut-être en destination d'un public plus large?
Il faudra voir si l'effectif de la chose, mais en tous les cas sur les intentions et sur la manière d'en parler, et même sur les préoccupations, parce que Franck Madlener, donc le nouveau directeur, j'ai eu l'occasion quand même à maintes reprises de discuter avec lui, les intentions sont clairement du côté de l'artistique, clairement du côté de la musique, et clairement du côté d'une non-obligation en fait, à mettre forcément un pack technologique avec un projet de création. Donc les intentions qui ont pu s'entendre déjà dans le Festival Agora qui vient de se terminer sont clairement dans ce sens-là. Maintenant, il faudra regarder effectivement dans la durée si ça arrive à se maintenir, parce que l'IRCAM est un magnifique projet, évidemment de Pierre Boulez, mais il y avait Luciano Berio, il y avait un certain nombre de compositeurs qui étaient là. Et le projet est réellement le fait de se faire se rencontrer des techniciens, des scientifiques et des artistes en fait. Et ce projet, qui a donné ce magnifique établissement qu'est l'IRCAM, est un projet très difficile à maintenir. Ce n'est pas si simple de mettre comme ça plusieurs personnes avec des spécificités un peu particulières, puis de dire, bon, bah, allez-y, bossez ensemble, vous avez des locaux, vous avez des moyens, bossez ensemble. Donc, je souhaite le plus beau bonheur à Franck Madlener dans cette opération-là.
Xavier, une petite chronique, Compañeros, que tu as été voir aujourd'hui, un film de Catherine Ulmer. Tu voulais nous en parler, je crois, un film sur la guerre d'Espagne.
Oui, un film présenté par le CMCA, c'est-à-dire le Centre Méditerranéen de la Communication Audiovisuelle. Alors, compañeros, c'est bien d'habitude quand quelques papis et mamies kakoshim se réunissent pour évoquer leurs souvenirs d'anciens combattants, ben c'est l'ennui assuré. Chacun est supposé y aller de sa bravoure, de ses grands moments, de ses hauts faits, agiter ses médailles avec d'autant plus d'héroïsme ostentatoire qu'ils sont en général partis à la guerre à l'insu de leur plein gré pour faire comme tout le monde et parce qu'ils n'avaient pas le choix. Avec nos compañeros, c'est tout différent. Il s'agit d'anciens des brigades internationales venus de 50 pays différents pour soutenir de 1936 à 1938 l'éphémère République espagnole contre les phalanges fascistes de Francisco Franco. Et ça change tout. Ils sont à la fois étonnamment modestes et animés d'une pêche d'enfer, ces papis. Ils font toujours de la résistance. Ils ne célèbrent pas leur victoire, et d'ailleurs, de fait, ils ont perdu la guerre, mais plutôt parlent avec beaucoup de lucidité d'un combat qui continue, sous une forme certes moins belliqueuse, mais un combat social pour la liberté des peuples et qu'ils pensent toujours être d'actualité et du domaine du quotidien. Ils nous semblent décidément vraiment très jeunes, ces papis, surtout quand on les compare aux quelques jeunes qui les accompagnent et dont la lutte s'exprime principalement par l'achat d'un t-shirt à l'effigie du Che acheté au tati du coin et par un poing mollement brandi sous une bannière écarlate. Comme il est rassurant en tout cas de constater ainsi qu'on peut vieillir sans renier d'un iota l'engagement qui a illuminé sa jeunesse. Bref, vous l'aurez compris, Compañeros est un film roboratif et émouvant, malgré une forme un peu convenue qui pourrait laisser s'installer un peu plus d'intimité avec ses compañeros, un peu plus de présence, au lieu d'une abondance un peu évidente de photos d'époque et d'interviews réalisées dans le cadre de meetings, ce qui n'est pas forcément le meilleur endroit, le plus facile justement pour qu'ils se livrent et qu'ils laissent aller comme ça leurs souvenirs librement. Dans cette plongée, dans la mémoire de la guerre d'Espagne, il nous reste bien sûr l'acuité de leurs témoignages, mais on aurait aimé aller un tout petit peu plus loin dans la rétrospective de cet épisode vraiment marquant de l'histoire du XXe siècle, qui a été trop souvent éclipsé par la Deuxième Guerre mondiale qui l'a immédiatement suivi, et c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On aurait pu, par exemple, creuser un peu plus ce paradoxe incroyable d'aller se battre, d'aller se faire trouer la peau parfois pour défendre une conviction pacifiste. C'est effectivement de l'ordre du paradoxe. Au-delà de cette très légère frustration, c'est en tout cas un très grand plaisir à la rencontre de ces personnages de l'histoire, toujours pleins d'un idéal communicatif. Pour le dire en trois mots, la lutte continue.
Merci Xavier. Gilles Grand, invité ce soir dans ce magazine en direct sur Radio Grenouille au FID à Marseille, au Palais du Pharo. Vous êtes venu voir un film en particulier ou vous êtes venu chercher quelque chose cette année-là ?
Ah non, je suis venu du début à la fin. Je veux tout en voir le plus possible, sachant que c'est impossible.
C'est impossible.
Il y a un peu plus de 100 films et
Si on 3, 4 salles.
3, 4 salles. Si on fait ça bien, on peut en voir correctement une quarantaine. Si on veut faire des défis, on peut monter jusqu'à plus de 50, je ne sais pas. Moi, je pense que j'en verrai une quarantaine.
En fait. L'année dernière, vous étiez là ?
Oui, oui.
Le prix du jury son, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Je pense pas trop à ça, même si j'ai fait partie d'un jury, parce que pour le dire assez simplement, je trouve qu'il est nécessaire qu'il y ait des prix dans un festival. Ça évite une espèce d'absence de vision comme ça, où chacun aurait un trajet. Ça met un petit peu un débat commun entre. Mais j'avoue que moi, ça m'intéresse pas beaucoup. En fait, je n'essaye pas d'avoir un avis direct par rapport au film. On voit des choses qui durent 4 minutes, on en voit d'autres qui s'étalent sur plusieurs heures. Il faut laisser le temps aux choses. Enfin, moi, quand je suis spectateur, je ne m'oblige pas à faire un classement, à dire le meilleur film que j'ai vu au FIT cette année, c'était... Je fais ça que quand je suis obligé, en fait.
Ni en son, ni en image, vous ne partitionnez pas. Hein.
Non. Je peux être attentif à la qualité technique dans une salle et en même temps ça ne m'empêche pas de voir le film, ça ne m'empêche pas de voir les images et je peux même être attentif à la qualité technique d'une reproduction vidéo ou je ne sais pas quoi. Tout à l'heure j'étais sensible à la qualité technique des sous-titres que je trouvais un peu trop courts. C'est soit je me fais vieux, mais que je mets du temps à lire, mais je trouvais que en plus là, c'était assez drôle parce qu'il y avait un film qui était sous-titré dans le film en anglais et en dessous en français. Et je trouvais que le temps d'affichage des sous-titres était un peu court pour qu'on puisse... Mais c'est des détails techniques qui ne sont pas très importants. Mais bon, quand on est dans une salle, on fait attention au film et on a quand même le temps d'être sensible à différents aspects.
Une dernière chronique. Enfin, chronique, c'est une rencontre qu'a fait Marc Voiry. Puisque ce soir, c'est la soirée d'ouverture au FID qui se fait à 20h avec le film VHS Kaloucha de Nedjib Belkacem, et je crois que Marc, tu l'as rencontré aujourd'hui.
Oui, j'ai profité de sa présence pour lui demander de nous dire quelques mots sur ce film qui va être projeté ce soir pendant la soirée d'ouverture à 20h. Donc c'est un film qui a été repéré par une programmatrice du festival il y a quelques mois dans un festival à Tunis et qui depuis est inscrit dans pas mal de festivals dans le monde, mais ce soir c'est la première internationale de ce film. Alors VHS Kaloucha, c'est le nom de Moncef Kaloucha, qui est un peintre en bâtiment et qui par ailleurs réalise des films dans lesquels il est décorateur, acteur, etc. Et une fois, il embauche les habitants du quartier où il est, une fois fini, il organise des projections, puis il y a des cassettes qui naissent, puis ça part un peu de partout, tout ça. Enfin, c'est un film que Jean-Pierre Rem décrit comme un film de résistance à la misère par la joie et la vitalité, ce à quoi Nedjib Belkacem souscrit complètement.
C'est ça, et c'est aussi un film sur la résistance grâce à l'art, grâce au cinéma. Des gens qui vivent dans une situation qui n'est pas si rose que ça, des gens qui sont dans une espèce dans ce quartier où la vie est très dure. Et le film raconte aussi cette résistance par rapport aussi aux préjugés. Parce que je vous raconte juste une petite anecdote. À Tunis, quand on a présenté le film pour la première fois, il y avait plein de gens dans la salle, il y avait plein de gens du métier, du cinéma, il y avait des gens d'horizons différents. Et donc, beaucoup de gens qui ont vu ce film ont dit c'est un film qui nous réconcilie avec des gens qu'on ne voit plus. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent de ce quartier un peu, disons, populaire, pour ne pas dire mal famé, ou pour ne pas dire là où il y a beaucoup de criminalité, de violence. Et donc, c'est des gens qui ont vu ce qu'on appellerait, entre guillemets, les « outsiders » ailleurs, donc des gens qui sont dans ce quartier-là, les gens de ce quartier, ils les ont vus sous un autre angle, des gens qui sont capables et qui sont pleins d'humanité, des gens solidaires et des gens qui sont soudés dans ce quartier-là grâce au cinéma. Parce que le film, c'est quoi ? C'est cette histoire de peintre en bâtiment illettré qui fait des films en VHS et qui les projette dans son quartier. Et là où il... Généralement, c'est des films de genre. Et nous, on l'a filmé en train de finir Tarzan des Arabes. Et c'est une très, très belle entreprise, je crois.
Quels ont été les moments marquants du tournage ?
Probablement le moment le plus fort du tournage, ça a été la grande scène dans laquelle il brûle la maison de sa mère. Sa mère lui a passé une maison. Elle lui a passé la maison. Il a passé une année à l'accessoiriser, à ramener des éléments du décor et tout, qu'il achetait au souk toutes les semaines. Et puis, comme il est dans cette logique amateur et comme il n'a qu'un seul décor et comme il n'a pas d'accessoiriste derrière lui, de décorateur, c'est lui qui fait tout. Et donc, il avait droit à une seule prise, lui et nous en même temps. Donc là, j'avais très peur. Je me suis dit, si ça foire pour devant. Alors que nous, on était là pour cette scène-là. C'est une scène incroyable dans laquelle il casse toute la maison et il brûle la maison totalement. Avec les pompiers qui débarquent et tout. Donc, mais ça s'est très, très bien passé, je crois.
Il organise des projections à la fin du film, il projette dans le quartier. Mais c'est aussi des films qu'on trouve sur les cassettes vidéo de la VHS et qui, des cassettes qu'on trouve dans la diaspora tunisienne, en Italie particulièrement.
Oui, nous, on a attendu quelque chose comme 6 ou 7 mois pour attendre qu'il y ait quelqu'un du quartier qui habite en Italie, près de Bari, à Altamura, dans un petit village, qui rentre en Tunisie pour récupérer la cassette et l'emmener avec lui en Italie, parce que toutes les fois où les fils du quartier qui habitent, que ce soit pas qu'en Italie, parce que nous on a attendu, on aurait pu partir à Stockholm ou à Paris ou à Marseille ici, mais nous on attendait le premier qui viendrait pour demander le film. Alors on nous a appelé, on nous a dit il y a quelqu'un qui vient, donc on a suivi, on est parti jusqu'en Italie. Et là sur place, on se rend compte à quel point ces films représentent un lien entre la Tunisie et l'Italie, dans le sens où ces gens-là, ces immigrés, il y en a plein qui ne peuvent pas rentrer en Tunisie parce qu'ils n'ont pas de papier, parce que c'est des gens qui n'ont pas de carte de séjour. Il y a des gens même qu'on a vus là-bas qui ne sont pas rentrés depuis 15 ans. Et puis le film constitue une espèce de lien entre le quartier et l'Italie, entre leur situation. C'est-à-dire qu'ils étaient là à regarder un peu l'évolution du quartier, l'évolution de la vie des gens, parce que ceux qui jouent dans le film Tarzan des Arabes de Kahloucha, sont les proches, sont les copains, les amis, les voisins. Et donc, ce qui était très intéressant, c'est de voir à quel point, outre le divertissement et le côté ludique des films, à quel point ces films constituent, même inconsciemment, pour le personnage principal, qui est Mansouf Kahloucha, un lien entre ces immigrés qui ne peuvent pas rentrer au pays et leurs proches et les gens qu'ils aiment, et puis le quartier dans lequel ils vivaient avant.
Ça raconte quoi, Tarzan des Arabes ?
Ah, ça c'est la question la plus difficile. Alors, non, juste pour résumer un peu, parce que Kahloucha n'est pas du tout dans une logique de linéarité. C'est-à-dire que lui, il est imprégné de la culture des séries B, séries Z, des années 70, des films de Clint Eastwood, qui est son idole, et aussi de Bruce Lee, de toute cette veine d'acteurs qui n'existe plus, enfin de ces films, de ces petits films qu'on voyait toujours dans les salles tunisiennes, enfin dans les salles tunisiennes à Sousse, à Tunis. Et donc, pour résumer, alors, Tarzan des Arabes. Alors, Mansouf Kahloucha joue le rôle de Tarzan. Donc, le film commence avec lui qui... Enfin, il y a une exposition de la vie de Tarzan dans la forêt, donc comment il vit et tout. Et il fait la rencontre d'un type qui le sort de la forêt et le ramène à la civilisation. Donc, lui apprend à porter... Enfin, il l'emmène à la fripe, il met des fringues, il lui apprend à parler. Et puis, Tarzan devient civilisé. Donc, il porte le costume, il parle normal. Et puis, un jour, alors là où ça bascule et là où ça devient un peu du Kahloucha au sens le plus large du terme, c'est que Tarzan, lui, c'est que le celui qui a sorti alors Kahloucha du quartier, c'est dur. Je refais. Attends, je te la refais celle-là. Alors, Mansouf Kahloucha joue le rôle de Tarzan. Donc, le film expose un peu la vie de Tarzan dans la forêt pendant un petit quart d'heure. Et puis, il fait la rencontre d'un type qui le sort de la forêt. Donc, il se lie d'amitié et le ramène à la civilisation. Donc, il lui apprend à parler, à porter des fringues, à se comporter d'une façon civilisée, entre guillemets. Ce même type, qui est boucher, alors, donc, à cause de rivalité avec son ex-patron, se fait zigouiller, lui et sa famille, par son ex-patron, donc par les sbires. Oui, tu rigoles, ben, c'est ça l'histoire. C'est pour ça que je t'avais dit que c'était difficile. Et donc, Tarzan, du coup, n'est plus Tarzan, parce que là, on est plus dans le polar, on est plus dans le film policier, dans le sens où il y a de la vengeance, il y a aussi de la rédemption. Et là, c'est d'autres valeurs. Donc, on sort complètement de Tarzan, on a l'impression qu'on est dans un autre film. Donc, Kahloucha va venger tous les personnages, enfin tous les personnages qui ont été zigouillés, qui ont été tués, entre autres tout, donc la famille de son du mec qui l'a sorti de la forêt. Et pour finir le film, ben, Karlucha revient à la forêt parce qu'il n'a plus de famille, parce qu'il n'a plus d'amis, il n'a plus personne avec qui vivre, quoi. Voilà.
Voilà, c'était Najib Belkadji. Donc, ce soir, ce n'est pas Tarzan des Arabes hein, qui est proche, c'était à l'ouverture du film, mais c'est VHS, Kalucha, son premier film.
Ce soir à 20h, donc, au Festival du documentaire à Marseille, à l'auditorium du Palais du Pharaon. Gilles Grand, on parle, là on était en Tunisie, l'international, vous travaillez souvent avec d'autres compositeurs, danseurs réalisateur, musicien.
Je ne vais pas répondre tout de suite à la question parce que je vais conseiller aux auditeurs d'essayer de se faire le résumé du film qu'on va voir ce soir. Donc c'est une heure et demie, tout en buvant l'apéritif, à mon avis, c'est la bonne heure. Pour essayer d'imaginer le résumé que l'on pourrait faire d'un film qu'ils n'ont pas encore vu, mais qu'ils peuvent voir à la cérémonie de ce soir. Quoi. Non, c'était juste une invitation parce que je trouvais assez charmant cette tentative en fait, d'essayer de dire en quelques mots ce qui se passe dans un film. Et moi, je trouve toujours que je ne travaille pas assez avec d'autres pays, d'autres personnalités. Et c'est une frustration que je pense que je garderai jusqu'à la fin, mais c'est une frustration qui me nourrit. Je sais que quand j'avais fini mes études de composition, je suis parti pas loin, en Italie, simplement parce que je trouvais que, surtout en France, on était un peu trop attentif à ce qui se passait en France. J'étais capable de dire presque le nom de tous les compositeurs qui étaient actifs et vivants en France. Et si je pensais à l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, je citais les trois grands noms que tout le monde connaît. Mmh. Et puis après ça, j'étais un petit peu perdu. Donc j'ai été voir carrément en Italie. J'essaye de le faire le plus souvent possible. Simplement, je dirais que la chance qu'on a, c'est qu'en France, il y a une belle activité artistique. Ce qui fait que c'est un peu comme certains pays d'Europe, c'est un peu la même chose pour les Allemands. On ne va probablement pas assez voir ce qui se passe à côté, simplement parce qu'on est actif là où on est et qu'en France, on peut se déplacer de Marseille à Paris, à Lille, à je ne sais où, et que ça limite, je trouve, nos façons de découvrir le monde. Et on est souvent obligé de le faire par soi-même. C'est-à-dire que moi, j'essaie de faire des voyages qui me permettent de rencontrer des gens un peu en dehors des circuits professionnels pour justement voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est actif dans d'autres pays, en fait.
Oui, une question pour vous, Gilles Grand. On constate de plus en plus, et aussi bien dans le domaine du documentaire que dans le domaine des films de fiction, que le son est désynchronisé de l'image. Effectivement, c'est très intéressant, ça fait apparaître un sens tout à fait différent. Mais est-ce que du coup, on ne pourrait pas imaginer de trouver beaucoup plus aisément dans le commerce les bandes son des films? C'est ce que nous faisons d'ailleurs en ce moment à Radio Grenouille, puisqu'on diffuse un certain nombre de bandes son des films qui sont projetés ici au Festival International du Documentaire.
Toutes les bandes son du jury sont. Pas toutes, pardon. 6.
Mais du coup, on aimerait bien pouvoir trouver, non pas ce qu'on trouve habituellement, c'est-à-dire la bande originale du film avec quelques musiques en général un peu insipides, mais trouver plutôt véritablement tout ce qui fait le contenu sonore du film, y compris les dialogues, et ça serait sûrement très très intéressant à écouter.
Non, mais c'est vrai, moi je suis d'accord avec ça. J'ai même vu que sur certains sites, on faisait des découpages d'images en mettant des photogrammes d'un film bout par bout, comme ça, où on a une centaine de photos qui fait une sorte de vision d'ensemble d'un film. Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec ce qu'on appelle la bande originale. La plus intéressante, c'est les musiques refusées d'un compositeur, qui est celui qui avait fait Spartacus. Les musiques qu'il avait proposées pour 2001, l'Odyssée de l'espace, ça fait l'objet d'un disque, et c'est des musiques qui n'ont jamais été utilisées pour ce film, en fait. Et moi, je préfère en général les musiques avec les dialogues et avec les bruits. C'est-à-dire que maintenant, si on le sait, on sait le faire. Moi, j'incite tout le monde à prendre son DVD, à découper en fait des extraits, les musiques qui nous intéressent, et à en faire une édition CD pour pouvoir se passer ça à n'importe quel endroit. Et il faudrait effectivement qu'on ait ça. Et j'espère que la manière qu'on a maintenant de vendre. Alors, je ne voudrais pas faire une apologie des commerces par Internet ou des choses comme ça, parce que j'ai adoré, dans ce qu'on a entendu précédemment, l'idée d'une cassette VHS qui traverse la Méditerranée pour que des gens fassent des copies VHS et se voient des films. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça, en fait. Ça marche très, très bien. Il y a une diffusion, non pas underground, mais une vraie diffusion réelle qui est « j'ai un truc, je te le copie, et tiens, tu... » Mais en dehors de ces copies-là, c'est vrai qu'on peut imaginer que sur du haut débit Internet, on pourrait effectivement s'acheter, pour pas très cher, pour quelques centimes, les dialogues de tout un film ou que les bruits ou faire des mix. Moi, c'est ce que je fais d'ailleurs chez moi. J'incite les gens à acheter des lecteurs, comme les lecteurs de DVD coûtent moins cher que les DVD, acheter des lecteurs DVD avec les différentes sorties Dolby et re-regarder un film en coupant la voix principale. Je le fais aussi sur les sites qui donnent des bandes annonces qu'on peut télécharger. Si la bande annonce a les bandes Dolby, vous pouvez vous réécouter les bandes annonces en enlevant telle ou telle partie, parce que c'est techniquement possible.
Là, on sépare la musique du.
Alors, c'est pas tout à fait fait comme c'est ça, quoi, parce qu'il y a six pistes, mais il y en a une qui s'appelle Centre. Les centristes, ils ont tout. Donc, ils ont la voix, la musique, les bruits, les trucs comme ça. Il y en a une qui s'appelle Gauche et il y en a une qui s'appelle Droite. Celle-là, en général, principalement la musique et les bruits de détonation, les bruits d'accident, enfin les bruits intenses. Il y en a deux qui sont très, très, très intéressantes, qui s'appellent Gauche au fond et Droite au fond. Elles s'appellent différemment selon le logiciel que vous utilisez. Mais c'est celle de second plan, en fait. Celles-là, elles sont toujours très intéressantes. Alors, vous supprimez Centre, vous supprimez Gauche, Droite, et vous écoutez que Gauche, fond et Droite, fond. Là, vous découvrez plein de petits trucs. C'est là où on fait entendre les feuilles des arbres, les insectes, un moustique, ou je ne sais pas, un tout petit truc. Et puis, après, il y en a une qui est carrément mystique, c'est celle du sub, qui fait entendre les graves. Et vous pouvez vous faire tout un film en écoutant que les subs. Ça reviendrait
on peut
en fait
voir
à écouter
plusieurs fois le même film.
Ça reviendrait à écouter physiquement une musique. On le faisait entre amis compositeurs. On écoutait une musique, on la mettait très forte et on se bouchait les oreilles pour essayer de n'écouter qu'avec les basses, vibrations corporelles, les os en fait, les transmissions solidiennes. Donc sur un film, vous pouvez le faire. Vous branchez que le sub. C'est pas très joyeux, mais ça peut être assez physique et assez jouissif de n'entendre en fait que les espèces de profondes basses comme ça. On ne sait pas d'où ça vient. Mais ça ne permet pas de faire, il faudrait le faire, je pense, faire ces éditions où il n'y aurait que les dialogues, où il y aurait les bruits et les dialogues sans les musiques.
En tout cas, le DVD a emmené une petite liberté comme ça, où on peut s'amuser un peu. Et,
moi, je pense qu'il faut
et comprendre un peu ce que c'est le son, le montage sonore aussi.
Plutôt que d'être victime du marchand comme ça, et d'acheter le grand écran plat et puis les je ne sais combien haut-parleurs de mauvaise qualité, amusons-nous, achetons un lecteur de DVD avec des sorties audio. Ou un décodeur Dolby, hein, ça existe, séparé du... Et brancher les fils n'importe comment, à l'envers, réécouter, redécouvrir les films comme ça, chez vous, vous avez le droit. Enfin, moi, je le fais, et ça m'amuse beaucoup. Voir Clint Eastwood, on parlait de Clint Eastwood, ou Bruce Lee, vous leur coupez la voix et vous regardez le film et vous n'écoutez que le reste, c'est assez fascinant parce que la voix y est toujours, en fait, du coup. Mais c'est celle que vous imaginez, non pas celle que vous entendez.
Ben merci beaucoup Gilles Grand, je crois qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de temps et ça aurait été très intéressant. En tout cas, on va quand même inviter les gens à venir, à ne pas rester devant leur DVD et à ce qu'ils viennent au feed.
Oui, surtout que je voulais parler d'un truc qui est difficile à transmettre à la radio. Donc vous êtes obligé de venir au Palais du Pharo, c'est qu'il y a des œuvres d'art qui sont exposées.
Absolument.
Et qu'il n'y a pas uniquement une magnifique vue, elle est magnifique, la vue sur Marseille, mais il y a quelques œuvres d'art et on n'arrivera jamais à les expliquer. C'est pas la peine de dire il y a une tente avec des sacs, puis une inscription dessus.
Un réverbère.
Il faut venir voir ça et je pense qu'il faut essayer d'en parler tout le temps à la radio, comme une espèce d'exercice impossible. Je ne parviens pas à décrire l'œuvre plastique que vous devez venir voir.
Voilà. Ça va peut-être être fait, on va peut-être faire une tentative dans la semaine, je ne sais pas Olivier s'il y aura une suite à ça. Merci beaucoup en tout cas, quelques actualités vous concernant ?
Non, je prépare des choses. Je prépare le remontage de Roméo et Juliette, c'est deux ans en avance. On va commémorer les 10 ans du Colonel des Oeuvres, donc le premier spectacle où j'ai fait la transformation en direct de la voix parlée, à Lorient, à l'endroit où il nous avait accueillis, il nous avait permis de créer cette pièce. Donc on a des projets comme ça. Et quant aux autres, ils sont un peu secrets, je prépare des choses. Outre la chronique que j'écris au Cahier des Cinémas, qui me fait réviser mes films, je prépare des musiques. Et pour l'instant, je n'en dis rien.
Merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde. Gilles Grand, merci d'avoir été présent pour ce magazine. Nous étions en direct du Palais Pharo pour ce Festival international du documentaire. Demain matin, nous reprenons l'antenne du FID à 9h30. Ce sera Marc qui vous accueillera pour un petit agenda du FID. C'est Marc, oui, c'est bien ça. Et à 10h, Xavier, plutôt qu'un thème choisi, plutôt qu'un thème bien précis, a choisi de nous orienter vers l'Orient jusqu'en Chine. C'est bien ça, Xavier, je ne me trompe pas.
Orienter ou désorienter, ça, c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, on va effectivement tenter une espèce de voyage d'Orient.
Voilà, d'ici là, nous vous proposons un documentaire sonore réalisé en Chine sur Radio Grenouille ce soir à 21h. Ce sera pour introduire un peu ton plateau de demain matin, Xavier, qui a été réalisé par Olivier Meiss, qui s'appelle La Fièvre. C'est à 21h sur Radio Grenouille ce soir. Sinon, les autres, vous pouvez toujours venir au Pharo, au Palais du Pharo, soit pour voir des films, mais aussi peut-être pour danser sur la musique des soirées Grenouille qui vont se dérouler tous les soirs au Palais du Pharo, des soirées organisées par Radio Grenouille avec des DJ. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. À demain.